Mondial Sport,
RFI.
Sofiane Amazian.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce week-end dans Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe sur RFI. Nous y sommes. Un an nous sépare exactement du début de la 35e Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, l'une des plus belles compétitions sportives du monde, le plus beau tournoi de ballon rond de l'année 2024 en Côte d'Ivoire, sans aucun doute possible. Fin décembre 2025, le royaume chérifien sera le centre de l'Afrique pendant un mois. 24 nations se battront pour succéder aux éléphants de Côte d'Ivoire, le Maroc, qui organise seulement sa deuxième CAN après celle de 1988 remportée par le Cameroun, de Roger Milla et d'un certain Joseph Antoine Bell. Dans les cages, notre consultant de luxe viendra raconter ses souvenirs marocains en direct dans l'émission. Le Maroc, nouvelle place forte du football africain et mondial entre la rénovation et la construction de stades à travers le royaume et l'installation d'un bureau de la FIFA. Où en est-on ? Ressent-on déjà de la ferveur sur place? La réponse apportée par notre correspondant Mathias Reynal. Et le volet sportif dans tout ça, les Lions de l'Atlas sont-ils grandissimes favoris pour accrocher une deuxième CAN après le sacre déjà lointain de 1976? Quelles seront les équipes à suivre? Les surprises? Et j'en appelle à mon équipe titulaire en studio, à ma gauche, Samba So, ancien international malien, 4 CAN disputées au compteur. Salut Samba.
Salut Sofiane.
Hâte de cette CAN au Maroc, j'imagine.
Oui, hâte. De toute façon, ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire, on espère en tout cas avec cette CAN au Maroc que ça sera extraordinaire.
J'espère qu'on vous entend. Et puis à ma droite, Karim Baldé, le consultant mondial sport qu'on ne présente plus. Salut Karim.
Présent. Salut Sofiane. Salut Samba. Salut à tous.
À vous aussi, un plein de CAN au compteur. Plus en zone mixte que sur le terrain.
Trois au compteur, ouais, en zone mixte. Et parfois sur le terrain.
Et parfois sur le terrain, c'est vrai que vous, on vous connaît, petit filou. Tout le monde est en place, coup d'envoi Mondial Sport, c'est parti.
La Coupe d'Afrique des Nations dans les bras de Roger Milla. 4 ans après la finale d'Abidjan, le Cameroun renoue avec la Coupe. 75 000 spectateurs, ambiance de fête pour un football spectacle. De Koundé, balle piquée pour Milla, intervention choc, et oui, du gardien nigérian Rufai. Des Camerounais très actifs en première mi-temps, témoins cette attaque et surtout la reprise de volée de Mumbu. Les Green Eagles du Nigeria vont réagir en seconde période, contre-attaque et un tir canon de Nwosu sur la transversale. Un seul but au cours de cette rencontre, Roger Milla crocheté, vous allez le voir, dans la surface de réparation. Pénalty indiscutable et pénalty transformé par Koundé. 1-0, score final, les Lions indomptables du Cameroun ont ramené la coupe à Yaoundé.
27 mars 1988 au stade Mohamed V de Casablanca. Le Cameroun, déjà vainqueur en 1985, est de nouveau qualifié en finale. En face, le Nigeria, duel entre deux grandes sélections du continent. Et ce sont bien les Lions indomptables qui ont le dernier mot, victoire 1-0, grâce à une réalisation d'Emmanuel Koundé sur pénalty. Dans les cages, ce jour-là, un certain Joseph Antoine Bell. Salut Joe.
Bonjour à tous.
Très très heureux de vous avoir en direct ici à RFI dans Mondial Sport. Vous avez disputé donc cette CAN au Maroc. Globalement, quels sont vos souvenirs de cette compétition? J'imagine qu'ils sont positifs vu que le Cameroun l'a gagné.
Ils sont positifs à tout point de vue et ils sont nombreux. D'abord, pour y participer, il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de période FIFA et chaque joueur professionnel négociait avec son club selon sa propre personnalité et sa crédibilité dans son club pour pouvoir être libéré. Et moi, à l'époque, j'étais à Marseille, j'étais le capitaine de l'Olympique de Marseille. Et on avait la Coupe d'Europe, il y avait le titre, il y avait vraiment, vraiment de quoi faire. Finalement, j'avais trouvé le moyen de me sacrifier, de dire que je vais jouer dans les deux équipes. Donc, je jouais le samedi à Marseille, ou en tout cas en France, le dimanche à Marrakech, puis le mercredi à nouveau quelque part en France, et le jeudi.
Ah oui.
De sorte... Oui, j'ai joué 8 matchs en 13 jours.
Ah oui, je venais retrouver... c'est un sacré programme ça.
Oui. Ah oui, je retrouvais mes coéquipiers le matin du match, je me rappelle très bien, l'avion atterrissait à Casa. On me prenait en voiture pour m'amener à Marrakech. C'était... Ah là là. Et donc, je crois que je n'ai jamais vu de terrain d'entraînement de Marrakech. Parce que j'arrivais le matin du match, juste à temps pour déjeuner, causerie d'avant-match, et on allait au stade. Et je revenais, il fallait se coucher, parce que le lendemain matin, je reprenais l'avion pour rentrer à Marseille. Donc, mais c'était un très bon souvenir. Je partageais la chambre avec Roger.
Roger Milan.
Qui était déjà... Oui, Roger Mila, qui était à ce moment-là quasiment en fin de carrière et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sérieux qu'avant, c'est-à-dire donc qu'il était tout le temps allongé dans la chambre pour récupérer. Donc c'était une chambre tranquille où il n'y avait pas de bruit. Voilà. Et puis la finale, en fait, il faut savoir qu'on avait fait match nul contre le Nigeria en poule.
Exactement.
Et que logiquement... La première place nous était promise, la première place du groupe à Marrakech. Et dernier match contre le Kenya, alors que tout le monde nous voyait évidemment vainqueurs pour avoir battu l'Égypte en premier match. Et bien, ce dernier match de poule, 0-0. Et un 0-0 que Claude Leroy... prend toujours plaisir à me rappeler parce que le 0-0 était ric-rac. Les Kenyans avaient eu une dernière occasion face à face et que j'avais oublié. On est passé en finale. Mais lui, l'entraîneur, il n'oublie pas les détails. Il sait qu'on aurait pu ne pas passer si on avait fait match nul contre le Kenya. Et donc, finalement, on passe deuxième au lieu de passer premier et de rester à Marrakech. Deuxième, on vient jouer à Rabat ou à Casa, je ne sais plus, contre le Maroc en demi-finale. C'est comme ça qu'on se fait des ennemis parce qu'on est...
Vous étiez plus adoré à ce moment-là.
On élimine le Maroc et donc le roi va donner la finale gratis pour pas qu'on joue chez lui devant des gradins vides. Et là, tout le monde vient au stade, mais évidemment, pour voir perdre le Cameroun.
Ah bah oui, évidemment. L'ennemi du Maroc à ce moment-là. Karim Baldé, notre consultant, a une question pour vous, Joseph-Antoine Bell.
Oui, bonjour Monsieur Bell. Alors, c'est un plaisir de vous entendre et d'entendre ces souvenirs de la CAN au Maroc. Et on voit à quel point le football africain a changé, parce que déjà, rien que la date de la finale, le 27 mars, déjà en soi, ouais, c'est quelque chose qui pourrait plus arriver aujourd'hui, même si les CAN ont encore lieu en milieu de saison. Mais petite question sur les différences peut-être avec aujourd'hui, justement. Il y avait beaucoup moins d'équipes à l'époque. La compétition durait, je crois, 2 ou 3 semaines, pas plus, de mémoire.
2 semaines.
Voilà, deux semaines. Ouais, 2 semaines. Et... si on fait peut-être le comparatif avec aujourd'hui, avec la prochaine CAN au Maroc justement, quelles peuvent être les différences entre une CAN, par exemple celle qu'on a vécue en Côte d'Ivoire, une CAN en Afrique subsaharienne généralement, et une CAN en Afrique du Nord, comme dans un pays comme le Maroc?
Je pense que ce sont plutôt les Nord-Africains qui font des différences.
Ah.
Et ça leur joue toujours des sales tours. Parce que oui, ils arrivent toujours en Afrique au sud du Sahara avec des appréhensions, des a priori, et de toute manière des préjugés défavorables. Pour eux, on n'a jamais gagné, il fait chaud, il fait ci, la serveuse n'est pas gentille, le soleil est beaucoup plus fort. Ils ont des tas de choses qui font que finalement, ils se posent des handicaps. Alors que, par exemple, nous, vraiment, à aucun moment, on ne s'est dit que la CAN est en Afrique du Nord, elle est plus difficile qu'une autre. De toute façon, on sortait de celle d'Égypte en 86 où on avait été en finale. Le fait d'avoir perdu en finale contre l'Égypte, personne ne l'a théorisé en disant on ne gagne pas contre les Nord-Africains, on ne gagne pas. Non, pas du tout. On revient là. C'est même le contraire.
Alors, ça vient de couper la connexion avec...
On le entend. Mais que Claude, Moi, je vous entends toujours.
Allez-y, Joseph-Antoine Bell. Donc, ça a coupé quelques instants, on vous laisse reprendre.
Donc, je me souviens que bien au contraire, Claude Leroy était venu à Marseille et m'avait dit, oh, tu sais, j'ai une bonne petite équipe, si tu viens, je suis sûr qu'avec toi, bon, il a dit ça comme ça, mais avec toi, si tu viens, on va gagner. Bon, donc, on n'a pas dit on repart en Afrique du Nord, c'est ci, c'est ça, non. Alors que eux, ils ont toujours ces choses. Il fait humide, il fait ci, mais vous ne pouvez rien changer aux conditions. Essayez de vous adapter, oubliez tout ça. Donc moi, je crois qu'encore une fois, bon, les Marocains vont se dire, on est chez nous, on doit pouvoir la gagner. Je suis d'accord avec eux. Mais les Africains au sud du Sahara ne vont pas arriver en disant, ah, c'est en Afrique du Nord. Tous vont arriver en disant, on peut la gagner, on veut la gagner. Les Ivoiriens, vous n'entendrez aucun d'entre eux dire qu'il est plus difficile de jouer au nord qu'au sud. Donc pour moi, la seule différence maintenant qui, elle est réelle, c'est que la vie au quotidien est un peu différente. Donc les après-matchs qui concernent pas trop les joueurs, qui concernent les journalistes et tous les consultants.
Ah, vous nous mettez dedans, allez.
Donc, les après-matchs sont généralement plus animés parce que c'est chaud, il y a des points chauds et tout, et que souvent en Afrique du Nord, on n'a pas ça. Ou alors, on ne sait pas où ça se passe. Voilà ce qui peut faire la différence. Et puis surtout, on a vu en Côte d'Ivoire, comme un peu au Cameroun aussi, qu'on essaye de remplir tous les stades. Les gens sont moins fanatiques de leur seule équipe. Alors qu'en Afrique du Nord, on a tendance à savoir supporter, mais à savoir supporter son équipe. Et donc les autres ne vous disent pas grand-chose.
Et ben voilà, et ben on verra comment ça se passera dans un an tout pile. Merci évidemment Joseph-Antoine Bell de nous avoir rafraîchi la mémoire, de nous avoir offert vos souvenirs de la Coupe d'Afrique des Nations 1988. Et puis évidemment, on aura hâte de vous entendre dès décembre prochain pour commenter et analyser cette 35e Coupe d'Afrique des Nations. Et avant d'accueillir toute l'Afrique du football, le royaume chérifien, eh bien, peaufine les derniers détails et rafraîchit plusieurs de ses stades mythiques pour y accueillir les matchs de la prochaine CAN. Et quelques temps plus tard, la Coupe du Monde 2030 en association avec l'Espagne et le Portugal. Alors, où en sont concrètement les travaux de rénovation? Est-ce que tout est en ordre ou doit-on craindre des retards embêtants? Notre correspondant Mathias Reynal s'est entretenu avec Rachid Naifi, le directeur de la gestion et de la valorisation des infrastructures sportives.
Rachid Naifi, bonjour.
Bonjour.
Première question, est-ce que le Maroc sera prêt à accueillir la CAN 2025? On en est où dans les préparatifs?
Certainement, les préparatifs ont démarré l'année dernière. Donc on est pratiquement sur 70% de réalisation. Très bientôt, on commencera la partie essais, tests et simulations. Les infrastructures stades accueilleront les événements et le public à partir du mois d'avril jusqu'aux prochaines échéances.
Donc c'est une CAN finalement qui a été préparée très rapidement. L'attribution de cette CAN au Maroc, c'est 2022. Il a fallu mettre la machine en route assez rapidement.
Oui, tout à fait. Il y a un savoir-faire, il y a une expérience sur laquelle le Maroc est en train de capitaliser. Il y a aussi des partenariats au niveau international en termes de travaux de mise à niveau, de construction de stades. Donc on arrive, alhamdoulilah, à combiner entre les deux. Alors il y avait déjà les stades, 5 stades qui répondaient aux normes ECAF et FIFA. Le Maroc avait organisé aussi 3 éditions Coupe du Monde des clubs en 2013, 2014, 2022 et une Coupe d'Afrique U23 en 2011. Donc les grands stades du Royaume ont accueilli plusieurs événements, des événements CAF mais aussi des événements FIFA.
On passe à une CAN à 24 équipes, ça aussi c'est un défi important à relever.
Tout à fait, tout à fait. 24 équipes, 6 stades, des stades d'entraînement sur toutes les villes et régions, des villes participantes. Donc c'est un challenge qu'on va réussir, Inch'Allah, Alhamdoulilah, avec toutes les parties prenantes.
Et ça se passe plutôt bien, la coordination entre ces différents acteurs?
Très très bien, très très bien. Jusque-là, tout se passe bien. Les travaux en respect total des délais, on sera prêt bien avant Inch'Allah.
Rachid Naïfi, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, à votre disposition, et on se donne rendez-vous Inch'Allah à la prochaine CAN féminine, déjà au mois de juillet, mais aussi la prochaine CAN en décembre, Inch'Allah.
Et voilà, le rendez-vous est pris avec Rachid Naïfi, on rappelle, directeur de la gestion et de la valorisation des infrastructures sportives, interrogé par notre correspondant Mathias Reynal, qu'on va retrouver dans quelques instants pour un autre reportage. Messieurs, d'abord sur les stades Sambasso, quand on n'a pas encore officiellement la liste des stades choisis pour la CAN 2025, on sait à peu près quand même vers quel stade on va se diriger. J'ai noté que parmi les grandes villes qui vont abriter ces matchs de la CAN, chacun a un stade de plus de 40 000 places. C'est des énormes stades. Vous qui avez disputé 4 CAN, vous avez dû voir parfois des matchs où il y avait beaucoup de public, parfois des matchs où il y en avait un peu moins. Est-ce que pour vous, avoir que des stades à 40 000 places, c'est une bonne idée? Ils vont tous être remplis ou ça peut être compliqué?
Non, mais c'est vrai que déjà, jouer dans un grand stade, pour tout footballeur, c'est quelque chose de... C'est un honneur. Mais après, voir des stades vides, je pense que dans toutes les CAN, il y aura des stades, on va pas dire vides, mais au moins...
Clairsemés.
Ouais, voilà. Exactement. Et je sais pas quels moyens ils vont trouver pour motiver les supporters pour voir tous les matchs. Monsieur Bell l'a bien précisé dans son interview. C'est vrai que dans les pays nord-africains, c'est vrai que ils sont fanatiques, mais fanatiques que de leur équipe. Est-ce que aujourd'hui, avec la réussite de la CAN en Côte d'Ivoire, est-ce que ça va leur montrer une autre voie pour dire que c'est une fête pour toute l'Afrique? Il faut des stades remplis, et j'espère et je suppose que ça va le faire.
Karim, une incitation, ça pourrait être une incitation financière, des billets moins chers, des billets offerts, faire plaisir aux enfants pour qu'ils découvrent la joie qu'est une Coupe d'Afrique des Nations, c'est comme ça qu'on peut remplir des stades?
Oui,
au Maroc.
Et une billetterie plus claire aussi, parce que...
va dénoncer.
Non, mais ça va pas forcément dénoncer, mais pour la CAN en Côte d'Ivoire, alors c'est vrai que les stades étaient bien remplis, et ça franchement c'était une très bonne surprise, même quand ça ne concernait pas la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire est un carrefour aussi en Afrique de l'Ouest, donc il y avait toutes les communautés maliennes, guinéennes, sénégalaises et autres qui arrivaient, mais l'un des soucis qu'on avait constaté, c'était sur la billetterie en ligne. Ils ont tenté de faire la billetterie en ligne pour la première fois, ça n'a pas été un franc succès. Ils sont rapidement revenus à de la vente directe dans des points à Abidjan et dans les zones grandes villes du pays. Donc je pense que déjà, il va falloir une billetterie claire, savoir où trouver les billets, à quel tarif. Et à ce moment-là, effectivement, en plus d'incitations spécifiques pour les enfants, pour les familles nombreuses par exemple, et bah c'est quand ils sont là on pourra avoir plus de chances de remplir les stades.
Et on imagine que le Maroc aura le temps de créer cette clarté, oui. Puisqu'on a compris dans cette interview que le Maroc ne construit pas de stade.
Non.
Le Maroc est en phase de rénovation. On lit que d'ici quelques semaines, quelques mois maximum, tout sera prêt. C'est vrai que c'est assez rare, on ne va pas se le cacher, d'avoir une organisation aussi claire au niveau de la construction et la rénovation des stades. C'est une excellente nouvelle pour le foot africain que de voir que les grands stades marocains vont être prêts d'ici quelques semaines, Sambasso.
Bah oui, de toute façon, on sait la capacité de ce pays à organiser ce genre d'événement. Le Maroc, c'est la plaque tournante maintenant en Afrique. Et on sait que même en dehors du football, en dehors du sport, c'est un endroit touristique où les gens aiment y aller, que ce soit à Marrakech, Rabat ou Casa. Et moi, je pense qu'avec l'organisation, avec les expériences des CAN passées, prendre le banc de chaque côté, je pense que ça peut tout réunir, ça peut faire un bon petit truc.
Bon, il y a quelques villes que j'ai listées, Karim Baldé, Marrakech, Tanger, Rabat, Casablanca, Agadir, Fès, pourraient être les villes choisies. Bon, il y a peut-être 80% de vrai,
oui.
Peut-être qu'il va y avoir quelques changements. On a des villes côtières, mm-hmm. On a aussi des villes qui sont au centre du pays, même plutôt à l'est. C'est un bon mélange, avoir une ville côtière avec la mer et des villes du Maroc qui sont vraiment au centre du pays, plus dans les terres.
C'est un bon mélange et surtout, ça impliquera qu'il y aura des climats différents. Et ça, je pense que ça va être une particularité par rapport à d'autres Coupes d'Afrique, surtout vu qu'elle est placée décembre-janvier. Ce ne sera pas la même chose à Tanger que dans l'intérieur du pays. Donc ça aussi, je pense que pour les organismes, ça va être intéressant. Et ça pourrait avantager quand même les joueurs qui jouent dans des pays européens un peu plus froids, parce que là, la différence de température sera aussi plus faible que quand on passe de Manchester à Yamoussoukro, par exemple.
C'est vrai, Karim Baldé, expert météo, en plus d'être expert des sports. Mondial Sport spécial, un an avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. L'arbitre, vous l'avez entendu, vient de siffler la mi-temps. On reprend notre souffle tranquillement en musique sur RFI avec Enes et son titre Désolé.
Je crains pas mon innocence. Je n'arrête de cesse de suivre ces flammes incandescentes qui illuminent. Promesse sans lendemain, c'est une étoile de plus qui s'éteint. La guitare joue qu'un accord, c'est bon. Pour moi, cela semblait suffisant. J'ai eu tort de croire que le jardin d'à côté était plus fleuri que le mien. Qu'était ton amour dans chaque recoin pendant que t'étais là tout ce temps.
Et Mondial Sport en direct sur RFI avant de replonger tête baissée dans notre débat du jour. Thème principal autour du Maroc et cette 35e CAN dans un an, tout pile, place à l'actualité la plus actuelle.
Mondial Sport.
Le point actu traditionnel dans Mondial Sport assuré ce samedi par Olivier Pron. Salut Olivier.
Salut Sofiane,
comment
bonjour
ça
à
va
tous. Bon, ça va pas mal. Moi,
vous avez des choses à raconter aujourd'hui.
J'ai raconté 2-3 trucs dans notre émission dans Mondial Sport.
C'est plus que 2-3 trucs, mon cher Olivier, puisque vous allez commencer avec le football européen. Vous voulez parler de Manchester City qui a perdu face à Aston Villa.
Alors, Manchester City qui a perdu, en ce moment, ça devient un truc plutôt chaque semaine, quoi, hein, régulier. Un rendez-vous de plus raté pour les Citizens sur la pelouse d'Aston Villa, le 7e qui accueillait le 5e. Et le 7e, Aston Villa, donc, il a dominé ce 5e de la tête et des épaules. Victoire 2-1, parce que quand même City a réduit le score en fin de match. Mais la domination était totale, grâce notamment à un Morgan Rogers, le héros de Villa, passeur puis buteur. City en apnée, qui n'en finit plus de creuser un trou béant avec la tête du classement. Autrement dit, Liverpool, 9 points de retard. Et Liverpool a 2 matchs en moins. C'est vous dire, si jamais Liverpool gagne ces 2 matchs, il y aurait un trou de 15 points. Une victoire en 12 matchs depuis le 30 octobre. Pour les Sky Blues, pour 9 défaites et 2 nuls, un naufrage devant, derrière et au milieu, Samba.
Incroyable. Ouais. On ne reconnaît plus le Manchester City.
C'est dingue.
On a toujours vu, mais bon, après, il y a énormément d'absence. Ça, il faut pas l'oublier non plus. Il y a le Ballon d'Or qui n'est pas là. Il y a eu la perte de Mahrez. Il y a le Belge De Bruyne qui n'est pas à 100% de ses capacités. C'est vrai que quand il y a 3-4 éléments comme ça,
c'est avec un entraîneur qui fait très peu tourner, qui a joué avec le même effectif, 14-15 joueurs, ça finit par se payer. Actuellement, Nottingham Forest, un club qui vous est cher, hein, je crois, surprenant et rafraîchissant 4e, se déplace à Brentford le 11e, 2-0 à l'heure de jeu pour les Tricky Trees. Et puis à 17h30, temps universel, Arsenal 3e sera lui à Crystal Palace 15e. Demain, pas mal non plus, Everton-Chelsea, attention à Chelsea hein, pour la course au titre. Et Tottenham-Liverpool évidemment.
Et Tricky Trees, j'ai bien noté votre accent mon cher Olivier. On passe de l'Angleterre à l'Espagne, un choc ce soir entre le Barça et l'Atlético de Madrid.
Et peut-être un tournant dans la course au titre. On est quelques-uns à se dire que tiens, et si c'était l'année de l'Atlético Madrid, hein, Karim. C'est vrai que ce serait pas mal, rien que pour Antoine Griezmann.
C'est vrai, et moi je les ai vus au stade face à la baisse il y a quelques semaines. C'est style Simeone, pas toujours spectaculaire, mais c'est efficace et c'est de plus en plus efficace, je trouve, ces dernières semaines.
Et bah Barcelone, leader à la différence de but avec un match en plus, reçoit donc son dauphin, l'Atlético Madrid, en feu. 11 victoires de rang, toutes compétitions confondues, plus une défaite depuis le 27 octobre. Au Barça, après des débuts quasi parfaits, les Blaugrana commencent à caler en championnat. Ils n'ont remporté qu'une seule de leurs 6 dernières rencontres, Barça-Atlético, 20h temps universel. En France, pour rappel, bon, c'est un peu moins sexy, 32e de finale de la Coupe de France. Hein, Samba, ça doit aussi vous rappeler des souvenirs. Entrée en liste des pensionnaires de Ligue 1 avec le traditionnel lot de surprises. Bah, nous, avec Salut Diouf, on avait mis un petit billet sur Le Havre qui nous a pas déçus. Et ouais, Le Havre battu par Saint-Brieuc, club de National 2, la 4e division, 1-0. Puis Toulouse, je ne sais plus contre qui, ils en sont au tir au but, les Toulousains. Ouais, donc,
d'ailleurs.
On y est, c'est la Coupe de
Lyonnais,
France,
je crois.
C'est
la
Coupe
de très, France, très, très dur, les 32e de finale. On bascule de suite sur le continent africain, puisqu'on dispute le deuxième et le dernier tour des qualifications pour le prochain Chad.
Ouais, et j'ai pas grand chose à vous dire, parce que vous savez ce que c'est que FROI, Final Results Only. C'est nouveau sur la toile et sur Flashscore.
Vous avez pas de résultat.
Alors, heureusement, on a quand même rien. Heureusement, on a quand même un poteau sur place, Mohamed Lamine. Je lui ai envoyé en catastrophe un petit message WhatsApp. Eh, hey, bro, tu peux pas me donner le score de Tchad RDC à l'heure de jeu? Bah, il a répondu 1-0 pour la RDC à l'heure de jeu. Le résultat définitif qu'on a, c'est l'Angola qui est allé gagner au Lesotho 2-1 en cours. Donc, bah, RDC Tchad 1-0 pour la RDC à l'heure de jeu. Guinée équatoriale Congo. Alors là, ils ont décidé de tout arrêter, mise à jour des données. Là, c'était le seul match qui suivait, mais on sait qu'il y a 0-0 à la mi-temps pour Mozambique Zambie, Eswatini Madagascar. Bah, faudra attendre le final result, la fin de match. Demain, grosse affiche. Hein. Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Ouais. Je voudrais juste terminer par un mot de ski et parler d'une femme. L'Autrichienne Cornelia Hütter, bon, ça c'est pour le résultat, a remporté ce matin le Super G de Saint-Moritz, 8e victoire de sa carrière en Coupe du Monde. Bravo, on la félicite. C'est une course marquée par la performance folle de l'Américaine Lindsey Vonn, 40 ans et 14e. 5 ans après, ça fait 5 ans qu'elle était à la retraite, elle décide de revenir, et boum, première course, 14e, histoire de bon, tranquille, et puis on verra la suite. Chapeau, Lindsey Vonn, l'américaine.
Bon, on a hâte de suivre la suite avec Lindsey Vonn. Merci beaucoup, Olivier Pron, on vous retrouve demain pour le traditionnel Point Actu.
Une, deux, ça fonctionne pour glisser cette balle à Tiatala sur le côté gauche, à Tiatala pour mettre ce ballon dans la surface, ce sera au prix de la tête et le but. Le but.
Et le voilà.
Oh, Maroc, signé. Ce quart de finale, 1-0 en faveur du Maroc avec ce centre de Tiatala, Diogo Costa qui se trouve un peu.
Les Lions de l'Atlas ont le vent en poupe depuis leur épopée magnifique lors de la dernière Coupe du Monde et cette demi-finale perdue contre l'équipe de France, première sélection du continent à atteindre le dernier carré de la compétition. Des résultats probants qui s'expliquent par les moyens mis en place par la fédération pour accompagner et professionnaliser les jeunes footballeuses et footballeurs du Royaume. Mais petite anomalie au niveau continental, une seule CAN remportée, c'était en 1976 en Éthiopie. Le fonctionnement de la compétition était tout autre. Les joueurs marocains avait même subi un grave dysfonctionnement d'avion qui aurait pu se terminer en drame. Depuis 76, presque plus rien. Sambasso, résumer le Maroc à sa seule CAN, je sais que c'est compliqué, mais c'est factuel. Le Maroc, c'est une grande nation du football africain, mais ça n'a qu'une seule CAN.
Exactement, le Maroc, on le sait, parce qu'on voit les individualités, on voit les joueurs qui jouent dans cette équipe, qui ont joué dans cette équipe. Forcément, on les place dans le haut classement des grandes équipes en Afrique. Mais c'est vrai que derrière, il n'y a qu'une CAN de gagner, et celle qu'elle a organisée, ça fait défaut et ça fait faille à ce que cette équipe représente avec le talent qu'ils ont. Mais bon, c'est la réalité du football. À un moment donné, les individualités, ça ne fait pas tout.
La faute a pas de chance, Karim, ou il y a un vrai problème? On connaît, je vais reciter quelques légendes marocaines pour que nos auditeurs puissent comprendre. On a l'Arbi Ben Marek, Ahmed Faras, Mustapha Hadji, Badou Zaki, Abdelmadjid Dolmi. Et là, j'en cite que 5 sur une quinzaine. Ouais. Et je vous laisse même imaginer l'effectif actuel du Maroc qui est vu comme l'un des meilleurs du monde. Ouais, c'est plus que pas de chance là, c'est mental, il y a quelque chose qui se passe mal au niveau continental.
Oui, et en plus je pense que justement ça pèse le fait qu'il n'y ait qu'une seule Coupe d'Afrique des Nations. Et quand on entendait Walid Regragui, le sélectionneur, avant la CAN en Côte d'Ivoire, il disait qu'à partir du moment où on a fait demi-finaliste de la Coupe du Monde, bah oui, forcément on est favori et forcément on va jouer la gagne. Et ici même, juste avant la CAN, j'avais dit que Maroc c'était un peu la fausse bonne idée. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un pressentiment. Pourtant, quand on a l'effectif, Hakim Ziyech, enfin tous les joueurs qu'on pourrait citer, bah, le Maroc ça doit gagner. Et pourtant, il y a un mélange peut-être soit de mauvaise appréhension de l'Afrique subsaharienne, on en parlait tout à l'heure avec Jean-Joseph Antoine Bell, mais aussi peut-être un excès de confiance, je pense, dans la CAN dernière qui a fait défaut. Et contre une équipe bien regroupée comme celle de l'Afrique du Sud par exemple, avec un grand gardien en état de grâce, et bah, ça a pêché. Il y a toujours un truc qui pêche dans des moments de bascule où là, il faut plus que du talent, il faut aussi un joueur qui puisse sortir de la mouise, hein, pour le dire familièrement. Même en 2019, j'étais au stade pour Bénin-Maroc, le Bénin où le Maroc ne doit jamais perdre. Et pourtant, le Bénin gagne. Donc, il y a toujours ce petit facteur-là, ce moment où il faut absolument avoir un surcroît de hargne mentale, presque, je dirais, pour passer outre la difficulté. Le Maroc a toujours du mal dans ces moments-là.
Et paradoxalement, le Maroc, il se balade en phase de qualification, que ce soit pour la Coupe du Monde. Et on se rappelle, là, pour la CAN, je crois qu'ils se prennent un seul but, ils en mettent plus d'une quinzaine.
Ils mettent que des taux à tout le monde. Voilà. Mais c'est pas significatif. C'est ça qui est un peu
la vraie compétition, c'est la CAN. Messieurs, est-ce qu'on n'est pas un peu trop gentil avec le football marocain? Je m'explique. Évidemment, il y a eu cette épopée en Coupe du Monde, la première nation africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Est-ce que ça permet aussi au football marocain de passer à travers les gouttes? Je le rappelle, une seule CAN pour un pays comme le Maroc. Un bureau de la FIFA vient de s'installer au Maroc. Ça montre à quel point le pays est devenu une plaque tournante du football mondial. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop gentil, Sambasso, par rapport à d'autres sélections?
Oui, on peut être trop gentil, mais moi, ce que je remarque, c'est que c'est des compétitions différentes. Quand on joue une Coupe du Monde et quand on joue une Coupe d'Afrique, c'est totalement différent. Aujourd'hui, on a vu l'équipe du Maroc lors de la Coupe du Monde, comment elles ont joué. C'était une équipe regroupée, une équipe qui attendait l'adversaire, qui procédait en contre, alors qu'en Afrique, quand tu es favori, tu ne peux pas te contenter de jouer comme ça. Donc aujourd'hui, est-ce que le Maroc peut prendre le ballon? Est-ce que le Maroc peut être un leader,
assumer un statut de favori?
C'est ça le problème aujourd'hui. Je pense pas que le Maroc fait partie. Certes, ils font partie individuellement des joueurs de haut niveau, mais en équipe, pour moi, il y a meilleur en Afrique.
Ah, parfait, ça fait une parfaite transition. Sportivement, que peut-on attendre de cette Coupe d'Afrique des Nations? Bon, on en est encore un peu loin. Les dynamiques actuelles des sélections ne seront évidemment pas les mêmes dans un an, mais tout de même, certaines analyses peuvent être faites. Alors, avant de s'aventurer à quelques pronostics, Mathias Reynal, il revient à profiter de sa virée à Marrakech pour y visiter le stade d'abord, et puis prendre le pouls des supporters marocains dont le rêve, évidemment, est de soulever le trophée.
Salut Mathias,
ça va bien?
Oui, bien arrivé.
Le soleil hivernal peine à réchauffer l'esplanade du grand stade de Marrakech. C'est ici, entre les grues et les tractopelles, que nous retrouvons Mourad Karaoui, le directeur régional de la SONARGES, une société nationale, bras armé de l'État marocain pour la réalisation et la gestion des grandes infrastructures sportives du pays.
Donc les travaux ont débuté fin 2023. C'est un relooking du stade. Sans toucher l'ossature générale.
Ce qu'il faut dire, c'est que c'est un stade qui est plutôt récent, le grand stade de Marrakech.
Alors, son ouverture date de janvier 2011.
À l'intérieur de l'enceinte, les vestiaires, l'éclairage aussi, les sièges, certains encore emballés, ont été remplacés par les technologies les plus récentes. Mais la capacité du stade reste la même, 45 000 places. De quoi accueillir un quart ou même une demi-finale de Cannes. Le public a été choyé.
Tout ça, c'est des sièges non FIFA, importés directement d'Italie. Meilleur design et une visibilité totale vers l'aire de jeu. Donc c'est des sièges plus larges, très confortables, numérotés bien sûr.
Et dans 12 mois, sur ces magnifiques monocoques made in Italie, les supporters donneront de la voix, remplaceront le chant du marteau-piqueur. Il y a déjà de l'enthousiasme en tribune. Hamza, 28 ans, supervise la sécurité.
Tout se passe bien, on travaille avec un bon rythme. Inch'Allah, on sera au rendez-vous de la CAN. Il y a une convergence des efforts de tout le monde sur ce chantier qui a une dimension spéciale. Nous espérons être à la hauteur des supporters et du peuple marocain. Il y a une motivation supplémentaire, une grande fierté à travailler dans un stade comme celui-là.
C'est à l'extérieur du stade que le chantier est certainement le plus impressionnant.
D'accord.
Donc là, on est sur le cœur du site d'entraînement. C'est un site de 4 pelouses.
Donc là, tout ça est sorti de terre en quelques mois.
Avant, c'était des parkings ici.
Les travaux seront terminés d'ici mars, assure Mourad, bien avant le début de la CAN. Le stade pourra déjà être testé en conditions réelles avec l'organisation d'événements sportifs. Au Maroc, les préparatifs pour la CAN se font au pas de charge.
L'ancienne génération des stades nous a permis d'avoir une expérience par rapport aux travaux qui vont venir, que ce soit pour la Coupe du Monde 2030 ou pour la CAN 2025. Donc l'ensemble des entreprises marocaines, les bureaux d'études, c'est des bureaux d'études marocains.
Dans une gargote à une centaine de mètres du stade, l'autre fille regarde défiler au loin les ouvriers.
Les Marocains respirent le foot. Ne me parle pas du Brésil ou d'autres nations. Ici, on a ça dans le sang. On attend ça depuis trop longtemps. Ça fait 10 ans qu'on veut la CAN.
Et ça fait 50 ans que le Maroc attend de remporter un nouveau trophée depuis 1976.
Ça va de la coupe d'Afrique.
Cette coupe doit rester à la maison. Elle nous manque. Il nous la faut et on la mérite en plus. On a une très bonne équipe.
Achraf Hakimi et les siens savent ce qu'il leur reste à faire. Mathias Reynal, de retour de Marrakech, RFI.
Et le Maroc qui n'a qu'une option, c'est de remporter la CAN à la maison. Sambasso en parlait un petit peu. Il voit qu'il y a d'autres sélections collectivement meilleures que le Maroc. Mais c'est vrai qu'on lit quand même sur les réseaux et sur Internet que le Maroc est grandissime favori. Est-ce que vous partagez cette information, mon cher Karim Baldé ?
Favori, oui. Grandissime, je n'irai pas jusque-là. Parce que le Maroc déjà va subir la pression à domicile, évidemment. Et cette équipe actuelle, quand on regarde la composition d'équipe, les compositions d'équipe des derniers matchs, il y a quand même pas mal de jeunes joueurs qui sont arrivés entre-temps. Hein. On parle de 2022, de la Coupe du Monde, mais quand même, quand on voit même des Ben Seguir, de Monaco, même Brahim Diaz, on en parlait hors antenne. Voilà, il y a quand même des jeunes joueurs qui sont arrivés et eux, ils vont la prendre puissance 10 000, cette pression-là. À voir comment ça va se gérer.
Sambasso, un autre argument pour expliquer pourquoi le Maroc ne devrait pas se voir trop grand, vous qui avez disputé plusieurs CAN, c'est important d'avoir ce qu'on appelle une cohésion globale d'équipe. On sait qu'au Maroc, il y a beaucoup de binationaux et il y a beaucoup de Marocains un petit peu partout en Europe. Vous avez des Espagnols, des joueurs qui sont nés en Espagne, comme Achraf Hakimi, qui maintenant joue pour le Maroc, Brahim Diaz en l'occurrence. Vous avez aussi le côté néerlandais, Hakim Ziyech venait des Pays-Bas. Vous avez aussi les franco-marocains comme Elias Ben Seguir. Est-ce que ça peut être un petit problème de se dire qu'il y a des joueurs qui viennent un peu de partout, ils ne parlent pas tous arabes. Au niveau de la cohésion, ça peut poser un problème dans une grande compétition comme la CAN.
De toute façon, pour gagner une compétition, il faut une bonne cohésion dans une équipe, dans un groupe. C'est une famille, donc le plus gros chantier pour moi au Maroc, c'est déjà d'intégrer toute cette diversité, tous ces joueurs qui viennent d'horizons différents, en plus des jeunes joueurs qui vont venir compléter ce groupe-là. Et je pense que le coach doit le savoir, c'est un ancien joueur, il sait comment ça se passe lors des compétitions. Et s'ils n'arrivent pas à gérer ça, s'ils n'arrivent pas à fonder et créer une famille, que tout le monde parle la même langue footballistique, tout le monde a cette envie d'aller chercher quelque chose collectivement, pas seulement individuellement, parce qu'on sait que tous ces joueurs-là ont envie de montrer leur capacité, leur qualité, mais de jouer pour ce pays, pour ce peuple, et de remporter cette CAN. S'il n'y a pas ce chantier-là mis par le coach, par le staff, je pense que ça va être très compliqué.
Messieurs, on parle beaucoup du Maroc, mais le Maroc n'est pas le seul favori de cette CAN. Vous avez des sélections qui, pour vous, vont tirer leur épingle du jeu. Évidemment, la Côte d'Ivoire, qui a remporté la dernière, va vouloir faire la passe de dos. Et on dit à nos auditeurs que Karim Baldé porte le maillot des éléphants de la Côte d'Ivoire.
J'ai failli ne pas participer à l'émission.
Et je suis obligé de le cacher, puisque je ne vais pas heurter certaines sensibilités.
Ça a brusqué notre international malien. Vous aurez des comptes à rendre, mon cher Karim. Il y a le Sénégal, évidemment. Il faut ne jamais oublier le Sénégal. L'Égypte, qui revient très bien. L'Algérie aussi est là, la RDC qui a fait une très belle CAN 2024 en Côte d'Ivoire. Est-ce que pour vous, il y a une sélection où vous dites « Ah là, ça peut aller très loin
» Pourquoi pas la RDC, tiens, pour reprendre le dernier exemple que tu citais à l'instant, parce que depuis l'arrivée de Sébastien de Sabre, déjà il a fait le ménage pour commencer, c'était peut-être la première priorité, parce que la RDC qui ne fait pas une CAN, pour moi c'est une anomalie totale. Donc il a réorganisé le staff. Il a fait en sorte d'avoir une espèce de bulle de tranquillité, on va dire, parce qu'on sait comment ça se passe dans la fédération congolaise. Mais moi, il a une espèce de bulle de tranquillité qui lui permet de travailler plutôt sereinement. Et ça a amené les résultats lors de la CAN en Côte d'Ivoire avec cette demi-finale et une quatrième place à l'arrivée. Et je trouve que ça, c'est de plus en plus cohérent. Et même là, les éliminatoires, par exemple, ça s'est passé très tranquillement. Bien sûr, ils ont une petite baisse de régime sur la fin, la défaite contre la Guinée, mais finalement, ils étaient déjà qualifiés. Donc,
ils avaient remporté leurs 4 premiers matchs.
Voilà, donc ils avaient assuré le travail avant. Et ça, c'est rare en RDC, ils ont vraiment assuré le travail, donc ils pouvaient se permettre un petit relâchement. Et Moi, je mettrais une petite pièce sur un bon parcours de la République démocratique du Congo. Après, voilà, il reste un an. Et entre-temps, il y aura aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc, même pour les entraîneurs, le problème, on sait à quel point c'est un poste précaire. Mais pour les sélectionneurs, est-ce qu'ils survivront à des éventuelles mauvaises campagnes pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026? Là,
c'est pour ça que les pronos sont durs à faire un an avant. Sambasso, il y a aussi des sélections à suivre, plus pour... l'historique, pour le coup, comme les Comores qui reviennent et qui vont redisputer une Coupe d'Afrique des Nations. Ça fait plaisir pour nos auditeurs comoriens et pour tout le peuple comorien de les revoir. Mon cher Karim Baldé pourra le confirmer, de les revoir au plus haut niveau du football africain. Ce serait aussi une sélection à suivre. Les Comores qui avaient fait 8e de finale, si je me rappelle, au Cameroun. Oui, avec le gardien. Il y avait eu...
avec Chakira Ladur qui avait endossé le rôle de gardien en dernière minute.
Sacrée performance histoire. Quand même des Comores, il faut le rappeler. Ce sera une sélection à suivre, évidemment. Alors, peut-être pas pour gagner la CAN, mais pour faire en tout cas un beau parcours.
Non, mais exactement. Déjà, ils ont fait fort lors de leur première participation à la CAN, comme vous l'avez constaté au Cameroun. Ils ont loupé la CAN en Côte d'Ivoire, mais ils reviennent fort avec ces matchs de qualif, la victoire aussi contre le Ghana. Donc, c'est quelque chose de très intéressant de cette équipe. Mais après, il faut voir le Comore. On sait qu'ils vont tout donner. Ils ont envie de briller. C'est une équipe qui progresse. Quand on regarde dans le passé, ça existe depuis peu, le Comore. Dans ce milieu-là, et je suis vraiment content pour eux. J'ai même des coéquipiers, quand je parlais tout à l'heure avec Bachirou ou Ali Amada, mais qui ne jouent même plus en ce moment. Mais c'est une fierté pour moi de voir le Comore aussi briller.
Allez, je vais aussi donner mon petit pronostic, mais on va essayer évidemment voir le Mali. On a envie de voir un petit peu ce que va donner le Mali de Tom Saintfit pendant cette CAN-là. Et je pense aussi au Bénin de Garnot Ror qui fait son retour dans cette CAN au Maroc, qui a bien progressé. On avait vu ensemble un match Karim Baldé à Amiens, un nul de partout contre les champions d'Afrique ivoiriens, donc aussi d'autres sélections à suivre. Mais de toute façon, sur RFI, on suivra toutes les sélections, il n'y aura pas de jaloux. La Coupe d'Afrique des Nations, l'un des nombreux sujets de conversation entre Christophe Babouvier et son invité exceptionnel, le président de la Fédération Camerounaise de Football, monsieur Samuel Eto'o, légende des Lions Indomptables. Au micro de RFI, l'ancien attaquant donne son point de vue sur les dates de la CAN au Maroc et son organisation tous les deux ans à travers l'Afrique.
La prochaine CAN a été reléguée à la fin de l'année prochaine, à la fin 2025, à des dates inhabituelles, là où il restait un petit peu de place, après que la FIFA eut imposé sa nouvelle Coupe du Monde des clubs pendant un mois, en plein milieu de l'été 2025. Est-ce que ça veut dire, Samuel Eto'o, que les Africains ne maîtrisent plus le calendrier du fleuron de leur compétition?
Je ne partage pas votre point de vue et je vous dirai pourquoi, mais vous allez me permettre de dire merci et félicitations à la FIFA parce que en peu de temps, la Coupe du Monde revient dans notre continent et c'est au Maroc. Et de dire grand bravo au président Fouzi qui est un visionnaire, un passionné, qui est à sa majesté, que Dieu l'assiste, qui ont tout fait pour amener ce prestigieux événement dans notre beau continent. La Coupe d'Afrique se jouera au Maroc, les dates que nous connaissons, mais souvenez-vous que quand le Qatar avait proposé à la FIFA de jouer sa Coupe du Monde pendant une période similaire, ça avait créé beaucoup de débats, mais nous sommes tous d'accord que c'est l'une des plus belles Coupes du Monde jamais organisées. Donc je suis convaincu que le Maroc fera pareil. Il faut s'adapter, il faut comprendre parfois les enjeux des calendriers, des championnats, de la FIFA, de l'UEFA. Mais je suis convaincu qu'à cette date-là, nous aurons l'une des meilleures Coupes d'Afrique jamais organisées.
Il y a bientôt 5 ans, Gianni Infantino, le président de la FIFA, encourageait les Africains à faire jouer la CAN tous les 4 ans et non plus tous les 2 ans. Et vous étiez opposé à cette idée. Hein ? Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'y va pas tout droit ?
Il avait évidemment proposé que la Coupe d'Afrique puisse se jouer chaque 4 années, mais c'est un monsieur qui écoute, qui comprend. Dites-vous que l'organisation de la Coupe d'Afrique pour les pays africains est liée à un développement économique. Les gens ne se rendent pas souvent compte, mais je suis convaincu que le Cameroun n'aurait pas eu 7 grands stades du niveau mondial si nous n'avions pas eu la Coupe d'Afrique. Nous avons expliqué au président Diané que nous avons besoin que les pays se développent au-delà du football, et il a compris.
Donc la CAN, tous les deux ans, ça va continuer?
Nous sommes en plein dedans. Vous avez vu que l'idée a été retirée. Et si demain, les intérêts de l'Afrique, que le président Gianni défend très souvent, l'amenaient peut-être à penser qu'avec le docteur Patrice Motsepe, monsieur le président, qu'il fallait passer à 4 ans, nous allons discuter et nous allons échanger pour qu'ensemble, nous ayons une même position pour le bien de l'Afrique. Mais ne perdez pas ça de vue. L'importance de jouer chaque 2 années permet à un pays des 54 États de se développer parce que ce sont des routes, parce que ce sont des hôpitaux qui se développent, ce sont des business qui se créent et parfois qui grandissent après l'organisation de la CAN.
Samuel Eto'o, grand invité RFI au micro de Christophe Boisbouvier. Plusieurs choses à décortiquer sur les 3 minutes qui nous restent, messieurs. Par rapport aux dates de cette CAN au Maroc qui ont été décalées, puisqu'on crée la nouvelle Coupe du Monde des clubs. Donc selon Samuel Eto'o, selon ses propos, c'est normal, c'est logique que ces dates ont été décalées. Messieurs, quel est votre avis? Karim d'abord, et puis le point de vue d'un footballeur de Sambasso. Karim, je vous laisse répondre en premier.
Le football africain a subi ce changement de date, clairement. Donc, on assume les conséquences. Après, moi, ça me choque quand même de voir une CAN qui se déroule pendant Noël. Bien sûr que toute l'Afrique n'est pas chrétienne, mais quand même, il y a une partie de l'Afrique qui est chrétienne. Donc, je trouve quand même que c'est un petit peu étonnant quand même d'avoir choisi cette date-là. Après, pour le calendrier, la vraie question, c'est est-ce que les clubs européens laisseront leurs joueurs assez tôt en décembre pour la préparation de la CAN? Quand je pose la question, je pense que vous avez deviné à peu près mon sentiment à l'heure actuelle.
Et on va poser la question voilà. À Sambasso, ancien joueur professionnel, 4 CAN disputées. Quand on entend Samuel Eto'o, ce n'est pas un problème de disputer la CAN entre fin décembre et fin janvier 2025, janvier 2026. En tant que footballeur, pour disputer une grande compétition en pleine saison, la préparation sera obligatoirement compliquée pour les joueurs. C'est une si bonne idée, ces dates?
Moi, déjà, sur ce point de vue, je pense que changer à chaque fois de date de la Coupe d'Afrique, c'est quelque chose qui dérange, que ce soit les joueurs, que ce soit les clubs, parce que dans l'organisation, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va jouer. Est-ce qu'on joue au mois de janvier? Est-ce qu'on joue au mois de juin? Est-ce que c'est au mois de décembre? Pour moi, le changer à chaque fois, ce n'est pas une bonne idée.
On devrait avoir une date toujours la même, un peu comme l'Euro et la Coupe du Monde,
exactement.
Hormis le Qatar.
Exactement, parce qu'au moins, on le sait, même dans les transactions des transferts des joueurs, dans la gestion de l'effectif. Donc on est dans l'obligation de savoir ce qu'on fait avant de commencer une saison ou avant de penser à une compétition. Et je pense qu'aujourd'hui, pour moi, c'est un blocage. Mais après, si on n'a pas le choix, bah, bien sûr que vu qu'il y a plein de compétitions qui sont organisées, et comme vous l'avez si bien dit aussi, par rapport à la préparation de cette CAN, parce qu'il faut une préparation avant une compétition, c'est en plein décembre, il n'y a pas de trêve avant. Les équipes, les clubs, ils vont tout faire pour garder le plus longtemps possible leurs joueurs, parce qu'ils sont dans leurs droits et c'est tout à fait normal. Après, il faudra voir dans la gestion comment ça va se passer.
Bon, en tout cas, on a quand même hâte d'y être. C'est dans 1 an, tout pile, la CAN au Maroc, que vous verrez évidemment en intégralité sur RFI. Mondial Sport, c'est fini pour aujourd'hui. On va remercier d'abord Joseph-Antoine Bell en début d'émission qui nous a fait part de ses souvenirs de 1988. Messieurs, Sambasso, Karim Baldé, merci beaucoup pour votre participation toujours efficace au débat footballistique. Mathias Reynal, on le salue également depuis le Maroc. Hélène Avril m'a aidé à réaliser l'émission. Assetou Samaké m'a aidé à la préparer. Bye bye.